Écoutez le monde changer. Fabienne Lemoyle.
Emmanuel Macron sur les toits de Notre-Dame, c'était jeudi pour visiter le chantier de reconstruction avec toujours cette volonté que l'on puisse accueillir de nouveau du public en 2024. Scène à peine croyable quand on se souvient de Notre-Dame en flammes il y a seulement 2 ans. Bonjour Agnès Poirier.
Bonjour.
Vous venez d'écrire Notre-Dame, l'âme d'une nation aux éditions Flammarion. Vous nous racontez comme si on y était cette soirée et cette nuit du 15 avril 2019 où le sort de Notre-Dame s'est joué. Récit que vous nous faites revivre à travers l'émotion, l'engagement de ces hommes, de ces femmes qui ont sauvé Notre-Dame, qui la restaurent aujourd'hui. Je pense notamment au recteur de Notre-Dame qui s'évanouit dans les bras d'Anne Hidalgo ou le choix terrible, hein, vous nous en reparlerez, du général Gallet qui commandait les pompiers de Paris. Vous nous replongez aussi dans l'histoire de la cathédrale depuis la pose de la première pierre, en passant par la Révolution, le sacre de Napoléon, pour mieux nous faire comprendre pourquoi cet incendie a bouleversé le monde. Mais déjà, on va revenir justement à cette fameuse soirée et nuit du 15 avril 2019. Vous êtes journaliste, correspondante à Paris notamment pour de nombreux médias anglo-saxons. Vous vous êtes retrouvée du coup en première ligne à commenter cet incendie pour des médias du monde entier. C'est là que vous avez pris justement la mesure de l'onde de choc de cet incendie à travers le monde.
Oui, en fait, je revenais de Londres parce que je suis très très souvent à Londres, je suis la correspondante de l'Express, notamment là-bas, et je devais commenter en direct pour la BBC une émission politique assez intéressante parce qu'elle est produite et présentée à la fois à Londres et à Washington, ça a son importance plus tard, et le discours du président Macron. Donc, j'étais en train de préparer ça. Il se trouve que quand je suis à Paris, j'ai la grande chance d'avoir vu sur Notre-Dame. Et évidemment, tout de suite, je regarde par la fenêtre, je vois ces énormes nuages jaunes, je me précipite. Et évidemment, on décide à Londres, à Washington, de consacrer cette heure d'émission, mais comme tous les autres journaux du monde entier à ce moment-là, les caméras braquées sur Notre-Dame. Et là, tout d'un coup, alors d'abord, il y avait l'énorme émotion que je ressentais en tant que Française et Parisienne, et la Française de l'étranger, puisque j'ai passé la moitié de ma vie maintenant à Londres, et tous mes collègues, parce qu'ensuite j'ai enchaîné 48 heures, nuit et jour, pour les médias anglophones, mais pas seulement, pour les Chinois, les Indiens, les Australiens. Et la même question me revenait de gens qui n'avaient parfois jamais mis les pieds à Paris ou même dans la cathédrale et ils étaient en larmes dans mon oreillette. Et ils me disaient, mais on ressent quelque chose de profond et pourtant nous ne sommes même pas Français. Et dites-nous pourquoi.
Alors
justement, donc au début, bon, il a fallu quand même que je donne des réponses, mais qui me semblaient à la fois pas assez profondes, pas assez satisfaisantes. Et c'est mon éditeur anglais qui m'a dit... Mets des mots sur cette émotion que vous, nécessairement, avez ressentie en France, mais aussi nous, à l'étranger. Et voilà, c'est le début de cette enquête à la fois journalistique et historique.
Alors, journalistique, justement, parce que vous nous prolongez avec les acteurs clés. On va prendre 2 ou 3 moments. Par exemple, le général Gallet, ce choix terrible qu'il a dû faire par rapport à ses hommes, c'est lui qui commande les pompiers de Paris. Racontez-nous, parce que c'est vrai qu'on est saisi.
Alors, j'ai eu la grande chance de pouvoir le rencontrer, parce qu'il s'est fait assez rare après l'incendie. Donc, le commandant en chef des pompiers. Et alors, il faut le rappeler quand même que les pompiers de Paris sont des soldats. Napoléon, 1811, et réchappe de peu à un incendie à l'ambassade autrichienne lors d'un bal. Et il se dit, bon, c'est fini, il nous faut les meilleurs.
Et là, il doit le faire le choix d'engager ses hommes au péril de leur vie.
En fait, il me dit, la situation était tellement désespérée qu'il n'y avait qu'une solution, c'était l'audace. Et donc, il n'échange pas beaucoup de mots avec ses hommes, il les connaît tous, et il a compris que ces hommes se portent volontaires, même s'ils sont soldats. Enfin, tout ça, c'est par des échanges de regards, et qu'ils sont prêts à y aller. Il lui faut évidemment l'autorisation du président, et le président aussi. Entre eux, c'est juste des regards, une poignée. Le président Macron lui serre la main, lui dit « allez-y ». Et dans l'assistance d'ailleurs près du président, quelqu'un a dit « mais a-t-on évalué les risques ?» Et le général Gallet répond « les risques sont consentis ».
Ça veut dire, et ça témoigne justement, et là on se replonge dans l'histoire de cette cathédrale, qu'on va sauver des pierres, mais c'est plus que des pierres, c'est l'âme d'une nation, comme vous le dites, pour qu'on engage comme ça sa vie. Et vous retracez justement des moments clés. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que, par exemple, on pourrait reprendre la Révolution, c'est-à-dire que même la Révolution, Notre-Dame, c'est l'endroit où on va prononcer un Tédéum après la prise de la Bastille, c'est l'endroit où on va célébrer l'abolition des privilèges, puis après ce sera Napoléon qui s'y fait sacrer.
Alors, en fait, je suis revenue, j'ai identifié 10 dates clés, j'allais dire 10 scènes clés, parce que c'est vraiment du cinéma. Et peut-être, avant de parler juste de 1789, le financement de la cathédrale. Contrairement aux autres cathédrales gothiques, nous l'avons financée. Parce que, un peu l'aristocratie, bien sûr, mais les prostituées de Paris, les bourgeois, les paysans.
C'est la cathédrale du peuple.
C'est la cathédrale du peuple, absolument. Et donc, elle a déjà un statut unique. Et en 1789, oui. Alors en fait, Notre-Dame attire les rebelles et les révolutionnaires. On se rappelle même de Jean-Luc Mélenchon le soir du 15 avril, les yeux totalement rougis. Il a eu ces paroles formidables, très belles, sur les bâtisseurs de cathédrales. Et Viollet-le-Duc était un rebelle aussi, puisque c'était un autodidacte. Il n'était pas passé par les Beaux-Arts et par l'Académie de Rome.
Le cœur de la nation, comme dira Victor Hugo.
Absolument. Et donc, les révolutionnaires, qu'est-ce qu'ils font à chaque fois qu'ils massacrent les gardes suisses, par exemple? Eh bien, ils vont faire une célébration de messe, comme si Dieu, la transcendance, la providence ne pouvait être que du côté du peuple et de la Révolution. À un moment donné, alors je vais aller vite, mais quand on constitutionnalise la religion, les prêtres doivent prêter serment et ils se disent « mais ma foi, il n'y a rien de plus démocratique que d'élire son prêtre ». Et donc, Notre-Dame se transforme en énorme bureau de vote pendant 6 semaines, par exemple.
Ce qui est marquant aussi, et c'est vraiment passionnant, et j'invite les auditeurs vraiment à se plonger dans votre livre, c'est que le bourdon de Notre-Dame aussi résonne à tout moment. Il a résonné au moment de la libération de Paris, il a résonné au moment de l'attentat de Charlie. C'est vraiment ce cœur de la nation, comme on le disait Victor Hugo.
Oui, absolument. Et en fait, c'est une symphonie en pierre, Notre-Dame, mais c'est aussi un son, c'est aussi ses cloches et le bourdon. Elle est là depuis 386 ans. Et effectivement, on a sonné le tocsin après le massacre à Charlie Hebdo pour des furieux athées et anticléricaux. Parce que Notre-Dame est à nous tous et nous sommes à elle. Et c'est pour ça qu'elle est constitutive de ce que nous sommes. Et beaucoup d'entre nous l'avions complètement oublié ou on ne le savait pas.
Je termine avec cette dernière question parce que il y a cette reconstruction à marche forcée pour coïncider, là encore, quel symbole aux yeux du monde entier avec la réouverture au public au moment des Jeux Olympiques à Paris en 2024. Forcément, j'ai envie de dire, à travers tout ce que vous nous racontez.
Oui, alors, elle sera rouverte d'une façon ou d'une autre. Peut-être que la flèche ne sera pas finie, mais c'est la première fois de son histoire quand même.
C'est important de la reconstruire à l'identique, justement.
Écoutez, oui, je crois que c'est important, mais ce n'est pas un choix anodin ni conservateur. C'est un choix mûrement réfléchi. Philippe Villeneuve, l'architecte en chef, a fait un rapport de 3000 pages et il a présenté pendant 4 heures ses conclusions. Chacune d'entre elles a été acceptée parce que lui aussi, c'est un amoureux de Notre-Dame et Viollet-le-Duc n'est pas un choix conservateur.
Merci beaucoup Agnès Poirier d'avoir été avec nous ce midi sur Europe 1. Je rappelle le titre vraiment passionnant de votre livre qui nous replonge au cœur de cette cathédrale. On voit comment vous l'aimez, vous la défendez vous aussi. Au fil des pages, Notre-Dame, l'âme d'une nation, aux éditions Flammarion. Merci beaucoup.
Merci à vous.